Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keragir et aujourd'hui, nous allons aller au cœur de la question. Oser parler au cœur de nos équipes avec amour. Venons casser, enfin et pour toujours, ce tabou autour de l'amour au travail. Il y eut une époque jadis où l'amour au travail était strictement relaté avec des histoires d'harcèlement. Non, aujourd'hui, si l'on veut s'en sortir avec les temps qui courent, il va falloir être capable d'aimer son travail, d'aimer son environnement, d'aimer ses collègues, d'aimer son produit, d'aimer son marché et d'aimer ses clients. Sinon, la courbe, ou la pente devrais-je dire, promet d'être très 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 raide. Alors concrètement, que pouvez-vous faire pour parler au cœur de vos équipes? Vous allez découvrir ici 5 façons concrètes de vous adresser à vos équipes pour radicalement changer votre management, votre façon de vous adresser à elles et surtout l'engagement que vous voyez émerger de ces gens qui à chaque jour se lèvent pour être à vos côtés. Et oui, je le disais en introduction, il y eut une époque, pas si lointaine que ça, où parler d'amour en entreprise était absolument ridicule. C'était des balivernes. Bref, ensuite, c'était dangereux. Et parce que c'était dangereux, on le classait très rapidement du côté du harcèlement. On ne pouvait pas comprendre qu'il y ait une autre façon d'exprimer l'amour en entreprise. Et aujourd'hui, finalement, ça commence à devenir une évidence. Et il faut savoir que tous les mouvements disruptifs et transformateurs traversent ces 3 étapes. La première, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, on vous toise, on vous regarde, n'importe quoi. La deuxième, ça devient dangereux, le ridicule a disparu et là, ça commence à prendre et là on voit tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les risques dans lesquels cette nouveauté disruptrice pourrait nous amener. Et là, non, c'est hors de question, c'est extrêmement dangereux. On ne touche pas ça. Et ensuite, chemin faisant, les choses continuent à évoluer, l'innovation disruptrice commence à prendre place et après le passage des premiers pionniers, après le passage des premiers innovateurs, eh bien petit à petit, on commence à voir un paquet de success stories qui commencent à attirer l'attention de plus en plus de monde et arriver à un certain point de bascule. En marketing, on appelle ça « crossing the chasm », traverser l'abîme, c'est à peu près 12% d'une population qui passe et qui adopte un système, a le potentiel d'influencer la population dans son ensemble. Bref, ceci étant dit, quand vous avez traversé cette phase-là et que de plus en plus de monde commence à accepter l'idée, on ne parle même pas de la mettre en place, mais accepter l'idée, une fois que de plus en plus de personnes commencent à la mettre en place, elle devient une absolue évidence. Alors, quand moi, il y a 10 ans, je parlais d'amour à l'entreprise, je voyais les sourcils qui se remontaient et qui... Mais il nous parle de quoi ? Aujourd'hui, enfin, on peut parler de ça ouvertement. Et je suis fier d'avoir défendu cette approche-là, de mettre l'humain au centre de l'entreprise, l'entreprise au service de la vie, avec un pilier unique et fondamental, le cœur ouvert et parler avec amour. Ce qui n'a absolument rien à dire avec être un bisounours ni un béni oui-oui. Mais avant de continuer, juste vous dire que cet épisode sera une mini-série de 2 épisodes, car il y a dans l'épisode d'aujourd'hui 5 approches que je voulais vous présenter, et d'après les travaux de Gary Chapman, et ensuite il y a une autre approche qui est extrêmement intéressante aussi et qui elle nous vient de la PNL. Ce seront 2 épisodes différents pour parler au cœur de vos équipes et pour éveiller des secrets d'engagement. Donc si vous ne voulez pas rater l'épisode suivant, abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à hello@nouveauleadership.life. L-I-F-E. Je répète, hello@nouveauleadership.life. L-I-F-E. Et entamons le dialogue ensemble. Nous vivons des temps complètement fous. Je vous l'avais expliqué dans l'épisode 50, on prenait un virage dans cette chaîne de podcast, et plus je regarde l'actualité, plus je regarde comment les choses commencent à basculer, et plus je me dis bon sang de bon Dieu. Donc, j'ai eu très envie de faire des épisodes pour contextualiser, montrer ce qui se passe, continuer à montrer du doigt l'absolue aberration dans laquelle nous sommes en train de rentrer et qui inévitablement nous amène à un basculement de système qui promet d'être plus que brutal. Donc, plutôt que de faire ça et d'essayer de défoncer des portes fermées, voire parfois défoncer des portes ouvertes, on va se concentrer sur être réellement là où on est attendu. Je vais me concentrer alors sur comment peut-on éveiller un potentiel nouveau, des capacités nouvelles pour nous aider à passer l'énorme vague qui nous vient dessus. Désormais, cette chaîne deviendra une chaîne pour surfeurs de la conjoncture. Alors parlons maintenant de surfer le cœur, l'amour en entreprise à travers 5 angles à travers lesquels vous pouvez vous adresser à chaque personne dans vos approches de leadership et de management qui pourraient radicalement changer la donne. Je vous ai dit que je base cet épisode sur les travaux de Gary Chapman. Et ceci va vous étonner parce que Gary Chapman était un conseiller conjugal. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient nous sortir celui-là? Eh bien oui. Je vais vous partager 5 secrets d'engagement qui, oui, effectivement, viennent influencés par les travaux d'un homme dont le fond de commerce était d'améliorer les relations de couple. Et là, vous allez me dire, écoute, comment est-ce que là, tu nous fais un raccourci un peu trop, allez, tiré par les cheveux, un peu trop pédiment. Non, s'il te plaît, viens pas nous parler de couple quand on parle à l'entreprise. Non, nous ne ferons pas ça. Mais Gary Chapman influence cet épisode non seulement parce que sa méthode, il l'a appliquée aussi au monde de l'entreprise, mais surtout parce que c'est une méthode qui s'adresse à l'individu, qu'il soit homme ou femme, à travers ce qu'il attend de la personne qu'il a en face. Voilà, un point, c'est tout. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les relations d'un management et d'un leadership réussi ne se basent-elles pas à un juste pouvoir donner à la personne qui est en face ce dont elle a besoin pour qu'ensemble vous puissiez obtenir les résultats dont vous ensemble et votre entreprise avez besoin. Donc c'est de ça dont nous allons parler, d'hommes, de femmes et comment communiquons-nous entre nous pour pouvoir toucher la base la plus essentielle de notre constitution humaine. Et celle-ci n'est ni plus ni moins que notre cœur et sa capacité à aimer. Et là, vous allez me dire, bon, Iker, tu vires un peu à l'eau de rose, là. Pourquoi l'amour et le cœur seraient-ils le centre fondamental de tout ça? Eh bien, je base cette affirmation sur le travail sur la qualité de présence, dont il m'est arrivé souvent de parler dans cette chaîne de podcast. La qualité de présence, c'est ce que vous portez avec vous ici et maintenant. C'est en très grande partie l'un des déterminants de votre charisme. C'est ce que vous communiquez en étant quelque part, juste en étant, sans parler, sans rien faire, juste en étant là, il y a quelque chose qui se dégage debout. Ça, c'est une qualité de présence. Mais c'est aussi une qualité d'être. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, ici et maintenant, et comment ceci influence vos potentiels et la capacité de les mettre en mouvement pour les activer, les laisser s'exprimer. Cette qualité de présence, quand vous la travaillez, et ce que je veux vous dire là, je fais une parenthèse, ne requiert pas des années de travail ni des mois de travail. En quelques semaines, et déjà je suis large, en quelques semaines, vous pouvez expérimenter que votre qualité de présence est faite en permanence, quel que soit le moment de la journée, quelles que soient les circonstances que vous vivez, au fond de vous, vous êtes sérénité, joie et amour. Et celle-ci est l'une des plus belles découvertes que l'on puisse faire en tant qu'individu, de se rendre compte que même quand je suis stressé, au fond de moi, je suis sérénité. Même quand j'ai peur, au fond de moi, je suis amour. Même quand je suis énervé, au fond de moi, je suis joie. Ces 3 caractéristiques-là, quand vous les touchez du bout des doigts, et c'est relativement simple, je souligne, c'est relativement simple de les toucher du bout des doigts, vous prenez conscience de ce que réellement jaillit au fond de vous. Et c'est le point de départ pour commencer à réellement embrasser votre potentiel. C'est le point de départ. Donc, si l'une des 3 essences essentielles, excusez-moi la redondance, de l'individu et l'amour et le cœur, forcément, tout ce qui va nous permettre de communiquer à travers cet espace ou avec cet espace nous donnera des outils supplémentaires pour renforcer la relation avec les personnes que j'ai en face, renforcer les résultats que nous allons atteindre, renforcer empouvoirment, renforcer engagement, etc., etc. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce dont nous allons traiter, ce sont les 5 langages de l'amour appliqués au leadership. Alors, avant de commencer, il faut contextualiser. Nous avons tous un réservoir d'amour. Alors, celui-ci, il sera plus ou moins plein. Il faut dire que dans le monde de l'entreprise, tel qu'il a été construit jusqu'à aujourd'hui, avec opacité, avec défiance, avec souvent des coups foireux, avec politique pas souvent très saine, etc., carriérisme, toutes ces choses-là vraiment pas trop cool, qui font, voilà, sont monnaie courante dans le monde de l'entreprise, notre réservoir d'amour professionnel est souvent relativement, voire particulièrement vide. Quand ce réservoir d'amour est vide, il est générateur de beaucoup de tensions intérieures et relationnelles, ce qui découle ensuite en problème. Donc, un énorme service que vous pourriez vous rendre, c'est de commencer à observer quel est l'état de votre réservoir d'amour professionnel. À l'inverse, quand le réservoir d'amour est plein, vous êtes là face à un espace d'épanouissement individuel, mais aussi groupal, dans lequel vous touchez beaucoup plus facilement à vos potentiels, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque un réservoir d'amour plein vous facilite l'accès à votre qualité de présence, mais aussi il vous facilite une connexion avec le vivant superlative qui rend les relations humaines beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus inspirantes. Parce que, consciemment ou inconsciemment, ce que nous recherchons tous, c'est de venir remplir positivement ce réservoir d'amour. Ainsi, une fois que nous avons posé cela, vous prenez conscience que tout être humain sur Terre est un réservoir d'amour sur pattes. Et que la question qu'il suffirait de ne se poser, c'est où en est la jauge de ce réservoir d'amour? Il est relativement simple, en interagissant un petit peu avec une personne, de pouvoir pressentir où se trouve sa jauge d'amour à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à ce travail-là, il y a un point extrêmement important sur lequel il faut savoir faire la différence. Excusez-moi. Il faut savoir faire la différence dans cette jauge. C'est qu'il existe plusieurs dimensions en notre vie. Et certaines de ces dimensions, toutes ces dimensions vont venir influencer notre réservoir d'amour. Nous sommes là en train de parler de la dimension amour professionnel. Certaines personnes viennent meurtries avec un réservoir d'amour vide parce qu'il a déjà été vidé avant d'arriver dans l'entreprise. On peut difficilement agir sur ces espaces-là. Par contre, l'amour professionnel qu'une personne peut recevoir peut parfaitement remplir suffisamment le réservoir pour faciliter l'acceptation ou les défis représentés par les autres dimensions de la vie qui, elles, viennent vider le réservoir. D'ailleurs, par effet collatéral, si une personne se retrouve dans un endroit qui remplit son réservoir d'amour, même si ce n'est que dans une dimension, cette personne viendra se réfugier dans cet espace-là beaucoup plus que dans les autres qui, eux, vident son réservoir d'amour. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'une personne vient avec un réservoir d'amour vide, parce qu'elle a une vie difficile, parce que sa vie de couple est difficile, parce que j'en sais rien, toutes les raisons, parce qu'il a eu une vie compliquée, ce n'est pas parce que la personne vient avec tout ça qu'elle sera difficile chez vous. Au contraire, si chez vous, elle retrouve un espace dans lequel enfin son réservoir d'amour peut se remplir, vous vous retrouvez là avec une personne qui dédiera un engagement superlatif à ce qu'elle fera chez vous, parce qu'ici, elle arrive enfin à trouver un endroit qui lui permet de toucher à son essence véritable, sérénité, joie et amour. Donc, maintenant que nous avons compris ça, on est en train de discuter de l'amour professionnel, la partie du réservoir remplie par l'amour professionnel. Et là où nous vivons en difficulté, c'est que l'immense majorité du temps, quand nous nous adressons à nos équipes, c'est pour le dire ce dont nous avons besoin, ce dont l'entreprise a besoin, ce dont les projets que nous sommes en train de traiter ont besoin, ce dont nos clients ont besoin. Et ce que l'on attend de chacune de personnes, c'est qu'elles se mettent sur des rails pour œuvrer dans le sens de tout ce que le monde entier a besoin, sauf eux. Et si je reviens un peu à l'école des années 80, on leur disait, écoute, il est payé pour ça, s'il n'est pas content, il a qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Combien de fois j'ai pu entendre des phrases comme ça? Cette école-là, elle est révolue aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre que dès le moment où vous êtes en train de dire à une personne, tu vas devoir t'occuper des désirata du monde entier, à un moment donné, tôt ou tard, de façon consciente ou inconsciente, de façon explicite ou pas, cette personne va vous dire, oui, mais à quel moment allez-vous vous occuper de ce dont moi j'ai besoin? Et là, beaucoup de leaders bug. Les leaders humanistes, eux, arrivent à avoir une oreille plus attentive. Et comme nous parlons de mettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie, vous allez ici découvrir 5 langages de l'amour appliqués au monde de l'entreprise. De façon à ce qu'en vous adressant avec le bon langage, dans la bonne bande passante de la personne que vous avez en face, cette personne va pouvoir remplir son réservoir d'amour au maximum grâce à vous. Car vous êtes le leader. Donc votre rôle, c'est de maximiser le contexte dans lequel cette personne va pouvoir exprimer qui elle est, ses potentiels et ses capacités d'influence sur le résultat. Ainsi, ensemble, vous atteindrez un résultat. Là, nous avons une définition du leadership que je trouve particulièrement appropriée. Ainsi, 5 langages de l'amour. Maintenant, pour finir de poser le cadre, dans ces 5 langages de l'amour, il faut que vous compreniez qu'il y a une hiérarchie. Les 5 existent et les 5 font plaisir. Mais il y en a un qui est prédominant. Et ensuite, il est suivi d'un deuxième qui, à défaut du premier, le deuxième fera un peu l'affaire. Le troisième, quatrième et cinquième seront juste de l'ordre de quelque chose qui fait plaisir, mais on va dire, ça rajoute juste quelques petites gouttes dans le réservoir. C'est pas ça réellement que l'on attend. On a un langage de l'amour qui est prépondérant et prioritaire. Identifier celui-là, c'est chacune des personnes auxquelles vous adressez, maximisera le potentiel d'engagement que vous aurez avec elles. Ainsi, vous devez non seulement connaître sur le bout des doigts les 5 langages de l'amour appliqués au monde professionnel, mais ensuite, vous devez avoir cette intelligence managériale d'aller poser les bonnes questions aux personnes que vous avez en face pour finir d'affiner quel est leur langage prioritaire. Une fois que vous connaissez ce langage prioritaire, vous allez l'utiliser en première ligne avec cette personne-là. Les autres venant derrière, que parfois vous pouvez combiner, serviront à rendre l'espace encore plus puissant, voire parfois plus beau, mais en sachant toujours qu'il y a un langage prioritaire. Dit autrement, vous en tant que leader, si vous voulez mettre l'humain au centre de l'entreprise, vous devez devenir un polyglotte des langages de l'amour que nous allons découvrir maintenant. Premier langage de l'amour, les paroles valorisantes. Il s'agit là tout simplement de dire des choses qui valorisent la personne. Quand vous vous intéressez aux différents travaux qu'il y a eu sur les engagements, la performance, etc., etc., il s'avère que une grande partie du désengagement de ces salariés est due au fait qu'ils ne peuvent pas voir l'effet de leur travail sur les résultats obtenus. En fin de compte, ils deviennent des lambda transparents qui, qu'ils soient là ou pas, ils n'arrivent plus à dire si réellement cette présence et ce travail qu'ils donnent au quotidien a réellement servi à quelque chose pour aboutir à quoi que ce soit. Et là, vous avez un énorme facteur de désengagement. Des paroles valorisantes permettent à une personne de se situer dans un écosystème et de prendre conscience de l'impact que cette personne a eu sur ce dernier. Ainsi, quand le résultat final arrive, ces personnes sont capables de voir qu'elles ont servi à quelque chose et qu'elles ont fait leur part dans la construction de ce résultat dont nous pouvons tous être fiers. Mais nous sommes là dans le domaine de la fierté partagée. Les paroles valorisantes qui marchent le mieux sont celles qui vont dans ce sens-là. Les paroles valorisantes qui marchent le moins bien sont celles qui vont venir gâter l'ego. Alors gâter l'ego de façon circonstancielle dans une durée de temps déterminée et courte, ça peut aider. Une personne qui a besoin d'être valorisée parce qu'elle manque de confiance en elle, ça va pouvoir venir lui faire du bien. Par contre, vous avez là un risque très important de tomber dans un piège, qui est celui où vous devenez prisonnier de cette sorte de spirale infernale qui va se créer, où la personne, pour pouvoir avancer, aura besoin de sa dose quotidienne d'être caressé dans le sens du poil. Parce qu'en réalité, quand vous venez gâter l'ego d'une personne, ce que vous faites, vous la caressez dans le sens du poil, dans l'une de ses vulnérabilités. Donc ça marche à un certain moment. mais c'est à vos risques et périls une arme à double tranchant, car à un moment donné, tôt ou tard, celle-ci peut se retourner contre vous, car vous êtes en train de jouer avec une vulnérabilité. On peut appeler ça presque de la manipulation. Si vous jouez avec une vulnérabilité, tant qu'elle est protégée et en sécurité, tout se passera bien. Dès le moment où cette vulnérabilité se retrouve en zone de danger, elle va se retourner contre vous de façon superlative. Donc, les paroles valorisantes, ce qu'elles viennent faire, c'est donner un empouvoirement, excusez-moi le terme barbare, ça vient de l'anglais empowerment, mais c'est le mieux qu'on a trouvé. Donc, empouvoirement, un mot qui devient de plus en plus à la mode, de la personne. C'est-à-dire que à travers ces paroles valorisantes, on lui permet de prendre conscience de plus en plus de quels sont ses potentiels, d'où il se trouve, de comment elle est en train de les mettre en application et de bien les mettre en application, et que grâce à ça, elle, nous, le projet, l'entreprise, les clients, le marché, tout le monde se porte mieux. Quand nous sommes dans les paroles valorisantes, nous allons en priorité dans ce sens-là pour qu'elles aient une place prépondérante dans leur potentiel d'engagement des équipes. Il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, ont juste besoin de moments de qualité. Ces moments de qualité seront, écoute, que dites-vous si après le boulot, on va se voir un pot juste là? Et si on se faisait un repas de début de vacances d'été? Et si on se faisait une fête de Noël? Et si l'on atteignait tous les objectifs et nous ameniait en vacances à Chamonix ou aux Maldives, ou j'en sais rien? Et si toutes ces choses-là qui relèvent du être ensemble, du vivre ensemble, du partager des choses ensemble. Ce sont des personnes pour lesquelles le lien affectif est extrêmement important. Elles ont besoin de vivre des moments à travers lesquels elles vont vivre du lien humain, et là c'est l'une des clés essentielles pour ces moments de qualité, du lien humain, mais aussi, et la deuxième clé essentielle des moments de qualité, ce sont des moments que l'on va photographier, que ces personnes-là vont photographier dans leur tête, et venir ranger dans un album des souvenirs. Cet album de souvenirs est celui qui va maximiser le sens de tout ce qu'ils font. Parce que c'est lui qu'ils vont ouvrir. Quand les temps sont difficiles, ils vont aller se réfugier dans cet album de souvenirs. Et plus il est épais, plus il a d'images à consulter, plus ils auront de force pour passer les moments difficiles. Donc, nous devons, dans ces moments de qualité, nous assurer que nous vivons des choses suffisamment hors cadre pour qu'on puisse faire des photos mentales que l'on rangera dans cet album de souvenirs. À l'inverse, les moments de qualité, ce ne sont pas juste une présence, c'est-à-dire je me contente d'être là et je suis coupé du lien affectif, comme il y a beaucoup de réunions d'entreprise où finalement on y assiste à reculons, parce que ce sont des réunions pince-fesses où en réalité on aimerait être n'importe où sauf ici, parce que le lien affectif ne s'exprime pas. On fait juste parce qu'il faut. Voilà. Combien de soirées avez-vous vécu comme ça? Ces moments de qualité sont des anti-moments de qualité parce qu'ils consomment du temps plutôt que d'apporter quelque chose de positif. Ils ne font faire aucune photo et quand on se met d'ailleurs devant la caméra, vous l'avez vécu ce moment aussi, on se met tous devant la caméra, allez, montrez que vous êtes content. Et là, t'es là, ouais, super, génial. Parce que tu ne l'as pas cette joie dedans. Ça, ce n'est pas un moment de qualité. C'est juste une obligation dans laquelle il faut que l'on s'inscrive. Donc, à ne pas confondre. Moment de qualité, lien affectif, véritable. Troisième langage de l'amour, les cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est aussi simple que ça. C'est faire des cadeaux. Et attention, parce que je décorrèle totalement des cadeaux chers du fait de faire un cadeau. Vous pouvez trouver un caillou dans une plage qui a une forme spéciale, qui vous évoque quelque chose de particulier, que vous allez prendre et l'offrir à quelqu'un. Et dire, écoute, tu vois, cette pierre, elle a été polie pendant des milliers d'années. Elle est toute ronde, elle est parfaite, je l'ai trouvée sur la plage. Et quand je l'ai vue, j'ai pensé à toi. Et tu sais quoi, je vais te l'offrir, parce que je t'ai vu évoluer au sein de cette entreprise. Je t'ai vu arriver, t'étais un diamant brut. Je t'ai vu passer des épreuves difficiles, je t'ai vu faire des travaux compliqués, je t'ai vu les réussir, je t'ai vu prendre sur toi, je t'ai vu te former, te dévoluer, te remettre en question, travailler sur toi, je t'ai vu évoluer et aujourd'hui tu es un véritable diamant dans cette entreprise. Et tu vois cette pierre-là? Pour moi, c'est ce qu'elle symbolise. Et je vais te l'offrir parce qu'elle parle de toi et que la chose que j'ai vue en la regardant, ce sont ces milliers d'années que cette pierre a eu à traverser pour devenir aussi parfaite, eh bien c'est l'image que j'ai en te regardant. Et là, tu offres cette pierre à la personne. Je vous assure que si cette personne, son langage de l'amour, c'est le cadeau, je peux vous dire que vous l'avez littéralement renversé. En plus, vous avez créé un acte symbolique, c'est-à-dire un moment de qualité. En plus, vous avez donné une photographie pour son album. C'est là qu'on a la possibilité de joindre plusieurs langages de l'amour, puisqu'en même temps, dans celui-ci, on a en plus donné des paroles valorisantes. Voyez ? Mais la première ligne, premier langage, était celui du cadeau. Et c'est un cadeau gratuit. Pas besoin de faire des gros cadeaux, pas besoin de rentrer dans le show-off, d'aller se la péter. Non, des choses simples. Mais le cadeau a toujours une symbolique. Et c'est ça qui est important, c'est que le cadeau a une symbolique et lui aussi un lien affectif. On ne se contente pas juste de faire un cadeau qu'on envoie comme ça à travers le CE. Écoute, envoie-lui ça, ça lui fera plaisir. Non, moi, ce n'est pas le cadeau en tant que tel qui va me faire plaisir. Je dis moi, c'est la personne qui aime les cadeaux. Hein. Ce n'est pas le cadeau en tant que tel qui va me faire plaisir. Ce qui va me faire plaisir, c'est la façon dont tu me l'offres. Et là, on donne une force. Donc là, vous avez le piège de faire des cadeaux. C'est-à-dire que, voilà, vous allez prendre quelque chose qui, pour vous, n'a pas de coût particulier ni de valeur particulière. Vous allez l'offrir en vous disant, écoutez, ça va aller mieux. Par exemple, vous recevez 200 invitations pour, j'en sais rien, la finale de basket du village, hein, ok, ou de la ville, on va dire, c'est un gros club, allez, finale de basket du club, finale régionale, bon, c'est un truc sympa, et voilà, vous avez 200 entrées parce que vous êtes sponsor de l'événement, ou un match quelconque de première ligue, hein, même de Ligue 1 en foot ou en rugby, top 14, on s'en fout, vous avez 200 tickets parce que vous êtes sponsor, et là, vous faites, bah, écoute, vous les balancez comme ça, bon, allez, donne-lui des tickets, allez, ça le rendra content, et... Donc là, bon, le mec, il vient, il va au secrétariat, il prend ses entrées, ouais, il est content, c'est super. Mais bon, la secrétaire, elle s'en fout, elle lui a donné les trucs, elle a d'autres choses à faire, lui, il arrive, bon, mais c'est cool, mais c'est la boîte qui me les a offerts, voilà. Il n'y a pas de lien avec ce cadeau-là. Il y a, dans tous les langages de l'amour, il y a du lien entre deux personnes. Et ce lien, si vous ne le créez pas, il n'existera pas. Et vous allez parler tous les langages de l'amour que vous voulez. Vous avez des pièges parce qu'en fin de compte, le seul langage d'amour qui marque et qui fonctionne est celui d'un homme ou d'une femme qui parle à un homme et une femme. Et on parle d'amour professionnel ici. Donc quand vous faites un cadeau, ne tombez pas dans le piège de juste faire des cadeaux vides. Il faut qu'ils soient remplis de votre présence et de la symbolique qu'accompagnent ces cadeaux-là. Alors bien évidemment, si ensuite vous vous retrouvez dans des situations où vous pouvez joindre et la symbolique et l'ampleur du cadeau, et là c'est du superlatif. Mais attention, je souligne à nouveau, combien de fois vous êtes parti en voyage ou en séminaire ou quoi que ce soit, on vous amène dans des endroits incroyables, dans des lieux hallucinants, mais tout ça est vide. Et vide, oui, le lieu, il était super, oui, bon, c'était, ouais, on a eu des intervenants qui étaient cool et tout ça, mais après, bon, mais on fait les repas, c'est un peu pince-fesse, on se parle, c'est un peu pince-fesse. Bref, quand on rajoute toutes ces choses-là, on est dans le pince-fesse superlatif. Pourquoi ? Parce que ce cadeau-là, il était encore une fois vide de la présence des personnes qui voulaient générer quelque chose. Quatrième langage de l'amour professionnel, les services rendus. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre au service d'une personne. Ça va être pour lui faciliter la tâche. Ça va être pour lui permettre de mieux évoluer. Donc, tout dépend maintenant de qui est la personne que vous avez en face. Les services que vous allez lui rendre seront d'ordre différent. Donc, vous avez bien évidemment une situation circonstancielle, ici et maintenant, qui demande que vous puissiez rendre service à une personne pour que ce service puisse enlever certaines aspérités sur son chemin et qui lui facilite la tâche. Ça, c'est l'un des types de services que vous pouvez rendre. L'autre type de service que vous pouvez rendre en tant que leader, c'est tout ce qui est de l'ordre du mentoring. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir qu'une personne est en train de traverser un chemin, qu'elle a des potentiels, mais ces potentiels ne sont pas exprimés. Car vous avez compris qu'il y a une différence entre niveau et potentiel. Son potentiel est énorme, son niveau n'y est pas encore. En tant que mentor, leader, vous êtes dans la capacité de pouvoir commencer à jalonner le chemin pour que cette personne commence à apprendre quels sont ses potentiels, les découvrir et les mettre en application. C'est une approche 100% win-win. Et c'est un énorme service rendu. Et je pense que c'est parmi les services rendus les plus importants et superlatifs sont ceux qui amènent des transformations. C'est la personne qui reçoit le service. Des transformations de vie, des transformations de posture, etc., etc. Toutes ces transformations-là, si elles sont positives, bien évidemment, rentreront dans la hiérarchie la plus élevée des services que vous pouvez rendre à une personne. Maintenant, le piège dans les services rendus, c'est quand vous faites les choses par intérêt. Je te rends service, tu peux faire ça. Attends, pardon. Je fais ça pour toi si tu fais ça pour moi. Là, vous tuez complètement. Ce n'est plus un langage de l'amour. Ça, c'est un langage commercial. C'est tout. Je te vends un service en échange de notre service. Et c'est ce que très souvent on fait à l'entreprise. C'est que c'est juste un troc permanent de service. C'est fait ça pour moi, je fais ça pour toi. Le piège, c'est qu'à un moment donné, quand tu demandes un véritable service, la personne en face, elle te dit « Mais tu fais quoi en face pour moi ?» Et ça, il n'y a rien de plus énervant pour l'immense majorité des leaders. Et pourtant, ils se sont créés eux-mêmes le piège. Ils se sont habitués à dire « Écoute, fais ça et en échange, tiens, on pourra faire ABCDE. Hein, » La carotte, vous vous rappelez la fameuse carotte? Et derrière, à un moment donné, on s'habitue à la carotte. Et quand tu viens et tu dis « Écoute, est-ce que tu pourrais faire ça ?»« Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais en retour ?» Et là, t'as les boules énormes parce que t'es tombé dans le piège de ces services rendus. Les services rendus facilitent la vie de la personne que vous avez à côté. Ça enlève les aspérités sur son chemin ou ça peut favoriser des transformations superlatives. Bien évidemment, si vous avez une vision claire, ces transformations et ces aspérités que vous enlevez sont pour faciliter le parcours que la personne va faire sur son chemin. Je souligne que la personne va faire, elle, sur son chemin vers l'atteinte d'un objectif. Car le dernier piège dans les services rendus, c'est que vous commenciez, vous, à transiter le chemin à la place de l'autre. Et là, vous êtes complètement en train de faire fausse route. Donc, service rendu, oui, mais si et seulement si, ça facilite que la personne qui doit marcher sur un chemin marche elle-même sur ce chemin-là. Vous n'êtes pas là pour faire la marche et la démarche à sa place. Vous êtes là pour la faciliter, ce qui est très différent. Et là, vous êtes dans l'autre piège des services rendus. Et le dernier langage de l'amour, celui-ci, il est beaucoup plus touchy, excusez-moi la blague à deux balles, parce qu'en fin de compte, on parle de toucher physique. Il y a des personnes qui ont besoin de sentir le lien avec l'autre à travers le contact physique. Alors pourquoi c'est vachement touchy? Parce que dès le moment où on parle de toucher physique entre un homme et une femme, la ligne qui crée la démarcation entre la cordialité et le harcèlement peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement fine. Pourtant, il existe beaucoup de personnes pour lesquelles le toucher physique est le premier langage de l'amour. Bien évidemment, vous m'avez bien compris, on parle ici de langage de l'amour dans le monde professionnel. C'est le réservoir d'amour professionnel. Donc, le toucher physique est dans le respect, forcément, d'un certain degré d'intimité de la personne, pas d'une sorte, de total degré d'intimité de la personne. Et par contre, ça n'empêche pas qu'il y a du toucher physique. Bien évidemment, là, avec la crise sanitaire que nous avons traversée, on est rentré dans un monde aberrant où on ne pouvait même plus se toucher. Ceci étant dit, dans un monde normal et humainement normalement constitué, le toucher fait partie de la vie de tous les jours. On se fait la bise, on se serre la main. Mais par exemple, une main sur l'épaule. Juste taper l'épaule quand tu dis merci et que tu es en train d'émettre des paroles valorisantes et que tu prends la personne et tu lui poses la main sur le dos, au niveau de la nuque, juste sous la nuque, et qu'en touchant la nuque comme ça, tu le regardes ou tu la regardes droit dans les yeux, et tu lui dis à quel point tu es reconnaissant de ce que tu as fait, de ce que cette personne a fait, pardon, de son chemin, de sa partie, etc., etc. L'exemple de tout à l'heure, la pierre parfaitement polie, si cette personne-là, elle a son langage prioritaire et le toucher, vous allez pouvoir lui faire un cadeau. Ça lui fera plaisir, c'est pas son langage principal. Son langage principal est le toucher physique. Tu prends la personne, tu mets la main sur le dos. Et là, tu fais tout le discours dont nous avons parlé tout à l'heure en lui faisant ce cadeau-là. Ce lien physique va donner une toute autre ampleur au message. C'est-à-dire que le message que vous êtes en train de donner à l'autre personne, c'est nous, dans notre lien physique, Je t'invite dans mon espace d'intimité. N'oubliez pas que vous êtes le leader. Donc, dans beaucoup de cas, en tant que leader, soit vous avez sur le papier un rôle hiérarchique au-dessus, soit sinon vous êtes naturellement adoubé de leader. Résultat des courses, il y a un lien spécial entre vous et cette personne-là. À travers le contact physique, vous êtes en train de lui donner un message implicite de dire « Je t'invite dans ma zone d'intimité, dans ma zone de confiance. » Quand vous touchez la personne juste sur le dos, vous lui tendez ensuite la pierre. La pierre, c'est aussi un toucher physique. Donc si cette personne, l'importance pour elle, c'est le toucher physique, une fois que vous avez posé la main sur son dos, prends la pierre, touche-la. Et quand la personne est en train de toucher la pierre, et de sentir, c'est à ce moment-là que vous allez lui faire tout le discours sur cette pierre qui a vécu des millions d'années, elle s'est polie, etc., etc. Et là, on est dans le domaine du toucher physique. Pourtant, la personne est en train de toucher une pierre, et le toucher avec cette pierre est en train de lui raconter une histoire qui crée un lien affectif spécial avec ce moment. Moment de qualité, avec des paroles valorisantes, avec un cadeau. Imaginez. Mais vous avez privilégié la zone de toucher physique pour vraiment remplir le réservoir d'amour professionnel de cette personne-là. Vous l'aurez immédiatement compris que le piège dans le langage de l'amour du toucher physique professionnel, le piège, c'est de devenir, voyez, comme les palourdes là qui se collent, je ne sais même pas si on les appelle des palourdes. Vous voyez les mollusques là qui ont une forme de triangle, qui sont pas triangle, qui sont une sorte de pyramide à base ronde. Je me rappelle plus comment on les appelle. Lapa, on les appelle en espagnol, qui s'incrustent dans la roche, on peut plus les enlever. Le but c'est pas de tomber dans ce piège là, c'est-à-dire que vous devenez gluant, vous devenez non, parce que là vous tombez dans presque le dégoût et le rejet. Voire même, ça c'est quand c'est un homme avec un homme, une femme avec une femme, mais voire même vous tombez dans le harcèlement, hein, et qui pourrait arriver jusqu'au harcèlement sexuel, parce que il est dégoulinant, il vient, il se colle à moi, je peux pas m'en décoller, je sais pas ce qu'il veut, ça peut faire peur. Donc cette zone de toucher physique, elle a une ligne de démarcation très 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 fine avec laquelle il faut faire très attention. Pourtant, eh bien oui, il y a des personnes qui ont besoin de toucher physique, de contact, pour sentir qu'elles font partie d'un écosystème, qu'elles appartiennent à la vie d'une personne, qu'elles appartiennent à un groupe. Maintenant, vous connaissez les 5 langages de l'amour. Ce à quoi ils vont vous servir, c'est tout simplement à faire que le réservoir d'amour professionnel des personnes qui vous entourent soit le plus rempli possible. Grâce à ça, vous allez avoir plus d'attention, plus de présence. Vous allez réduire l'absentéisme, forcément. Mais vous avez plus de présence physique, mais vous avez aussi plus de présence émotionnelle et intellectuelle. Vous avez aussi une beaucoup plus grande capacité de résilience. Je souligne ça, parce qu'on va en avoir beaucoup besoin à partir de septembre. Une grande capacité de résilience. Parce que l'on sait qu'on peut compter sur cette entreprise, on peut compter sur ce leader-là. Parce qu'il nous donne le meilleur qu'il puisse nous donner, c'est un contact avec notre essence véritable qui est faite d'amour et il nous permet de remplir cet espace-là. Vous aurez aussi une plus grande capacité d'absorption des difficultés. Donc la résilience, c'est la capacité à traverser les difficultés. La résistance aux difficultés, c'est d'en prendre des grosses dans la figure et être encore là, ne pas se laisser écraser, effondrer, juste toucher le fond, se dire on s'en sortira jamais. Non, quand le réservoir est plein, on voit la lumière au fond du tunnel. Car vous avez tous vécu des situations, mais vraiment, vraiment inconfortables. Des situations de galère, des situations de trucs. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là, de l'ordre du lien entre les personnes. Et on s'est retrouvés ensemble. On a fait équipe. On s'est serré les coudes. Et en se serrant les coudes, on a réussi à traverser cette situation extrêmement compliquée. Et pendant que nous la traversions, nous vivions des choses spéciales. Eh bien, ces choses spéciales sont de l'ordre du réservoir d'amour professionnel. Et c'est ça la lueur au fond du tunnel. Et quand tout est sombre autour de vous, quand vous regardez celui que vous avez à côté, si dans ses yeux, vous pouvez voir une étincelle d'amour, rien que cette étincelle va venir remplir votre réservoir. Si lui voit chez vous cette même étincelle, il va se retourner vers vous. Pourquoi ? Parce que c'est là le seul endroit où il peut voir de la lumière. Et c'est ce qui ferait ces équipes très fortes qui, dans des périodes très difficiles, arrivent à dépasser à déplacer des montagnes. C'est parce qu'elles ont cette lumière-là qui est au fond d'elles, mais aussi qu'elles voient au fond du regard des personnes qu'elles ont en face. Les langages de l'amour appliqués au monde professionnel sont une façon de pouvoir permettre cette magie d'émerger. De pouvoir permettre que cette magie émerge. Excusez-moi pour le coup de pied grammatical à ma diction. Bref, ici, vous avez donc 5 langages qui vous invitent à devenir un polyglotte. Et polyglotte de ces langages-là, ça veut dire quoi? Soyez créatif. Pensez de combien de façons différentes pouvez-vous avoir des paroles valorisantes. Créer des moments de qualité. Faire des cadeaux qui ont du sens. Rendre des services transformateurs. Et aussi avoir du contact avec les personnes. En réalité, ce que ces 5 langages de l'amour vous font comprendre, c'est qu'au niveau professionnel, le seul moyen de réellement créer du lien avec vos équipes, de créer de l'engagement, de créer de l'empouvoirement, c'est qu'il y ait une véritable qualité de présence et une véritable présence du leader que vous êtes dans la vie de toutes ces personnes-là. À ce moment-là, vous pouvez réellement transformer la donne. Et si vous avez des entreprises avec beaucoup de salariés, 100, 200, 500, 10 000, comme ces leaders avec lesquels il m'arrive souvent de travailler, là vous me dites « mais je suis limité » et je vous dis « oui, vous êtes limité ». Vous êtes limité à votre dynamique de groupe restreint. Il y a au maximum 15 à 20 personnes avec lesquelles vous interagissez de façon qualitative et avec lesquelles vous pouvez mettre en application ce que vous venez d'apprendre dans ce podcast. Maximum. Pourtant, vous en avez 10 000 autour de vous. Alors si je ne peux influencer que 15 ou 20 personnes, comment puis-je faire? Eh bien, c'est la théorie des vases communicants. C'est qu'en fin de compte, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, vous pouvez le transmettre aux personnes qui vous entourent. Car si c'est votre garde rapprochée, ça veut dire que dans cette structure de 10 000 personnes, ces 15-20 personnes sont le point de communication avec les 10 000 qui vous entourent. Elles ont un pouvoir d'influence énorme. Donc ce que je suis en train de vous raconter doit venir une culture au sein de cette garde rapprochée, qui elle-même devra créer cette culture au sein de leur garde rapprochée. Ce que vous cherchez à atteindre, c'est ce point de bascule dont je parlais au début, le fameux crossing the chasm, traverser l'abîme, où au-delà de 10% d'une population ayant intégré certaines notions, on a le potentiel de faire basculer l'ensemble de la population. Et là, vous avez gagné. Donc si vous êtes 10 000, si vous avez besoin de 10%, 1000 personnes doivent être intégrées à cette culture-là. Mais dans une entreprise à 10 000, 1000 personnes, c'est quoi? C'est peut-être les couches hiérarchiques supérieures de cette entreprise? Il est possible d'atteindre ces personnes-là. C'est une théorie des vases communicants où une culture peut être transmise à un nombre suffisamment important de personnes puisque pour qu'à un moment donné, cette culture puisse se divulguer. Mais quand on remet l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie, aucune de ces techniques dont je vous ai parlé ne fonctionne si vous tombez dans le piège du faire semblant. Dans chacune des descriptions, je vous ai dit où est-ce que vous pouvez vous tromper et faire semblant d'avoir des paroles valorisantes ou des moments de qualité ou de faire de cadeaux ou de rendre des services ou de toucher physique. À ces moments-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous devez réellement incarner ce que c'est que être un leader humain qui met l'humain au centre de l'entreprise. Il n'y a pas de raccourci pour ça, il n'y a pas de hack, il n'y a pas d'astuce pour éviter le fait que vous soyez pleinement incarné dans ce rôle de leader qui vit et qui est la culture qu'il aimerait voir dans son entreprise. Car le moment est venu de réinventer le leadership, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.